Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Clémence et je remplace exceptionnellement Priska ce soir pour votre émission Curiosité du vendredi soir, le décryptage des informations de notre belle région. On remercie Julia pour son aide précieuse à la réalisation et surtout on embrasse bien fort Priska et on pense bien à elle. Ce soir, au sommaire de l'émission, nous parlerons d'éducation à la sexualité. Nous recevrons au micro de Constance l'association Dicton qui promeut l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle auprès de jeunes. L'association sera notamment présente au Randan Festival demain à l'Agronaute. Pour en parler, nous recevons Noé qui s'entretiendra au micro de Constance. Bonsoir Constance, bonsoir Noé, vous allez bien ?
Salut, ouais très bien.
Nous aurons également un reportage sur l'inquiétante montée des eaux sur l'île Dieu. Aujourd'hui, en effet, les habitants de l'île se saisissent de cette question aux côtés d'experts. On vous expliquera tout cela dans le reportage Pensée locale en partenariat avec la Frappe. Suivi des chroniques habituelles de la rédaction, si vous avez envie de vous rafraîchir, Jérémy nous parlera d'un sport spécial, une variante du hockey pour le moins atypique. Suivi d'Alexis qui est de retour ce soir et qui nous parlera d'un roman intitulé « Un psaume pour recycler sauvage » de Becky Chambers et publié en septembre dernier par la maison Atalante. Sans plus tarder et en présence de Constance et de Noé, partons à la découverte de notre thématique du jour.
Curiosité. Pensez le futur.
Bonjour Noé, merci d'être avec nous donc pour parler éducation sexuelle, éducation à la sexualité. On l'a dit, vous êtes membre de l'association nantaise Discutons, une association qui anime des ateliers de sensibilisation à l'éducation sexuelle, qui répertorie les ressources existantes sur le sujet pour tous les âges, on y reviendra, et qui a créé également, ou qui est en train de créer, du contenu sonore. On va voir tout cela avec vous dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais vous demander de quelle façon vous entendez-vous l'idée, le concept d'éducation sexuelle, parce que c'est un terme qui peut faire référence à beaucoup de réalités différentes. Est-ce qu'il y a une définition que vous partagez au sein des membres de l'association ?
Alors nous, on parle surtout d'éducation affective et sexuelle, ce qu'on appelle EAS, en terme un peu professionnel. En fait, on entend par là tout ce qui a attrait au rapport au corps, au rapport à soi et au rapport à l'autre. Donc vraiment, on parle de sujets comme le consentement, on parle de sujets aussi plus classiques comme IST, MST, la contraception et tout ça. Mais on parle aussi vraiment pour tous les âges de, en fait, c'est quoi mon corps, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, comment je l'envisage par rapport à d'autres. Vraiment, on parle de tout ce qui concerne, en fait... Sur le rapport à soi et le rapport à l'autre, finalement.
Alors, l'éducation sexuelle, elle a été au centre de l'actualité il y a quelques semaines, parce qu'il y a trois associations, donc SES Homophobie, SIDAction, le Planning Familial, qui ont annoncé attaquer l'État, qui est accusé de juste pas respecter la loi, puisque la loi dit que chaque élève doit assister au minimum à 3 séances d'éducation sexuelle par an, de la primaire jusqu'au lycée, ce qui, visiblement, n'est pas du tout mis en place pour le moment. Est-ce que toi, tu sais si c'est de ce constat, enfin du fait que les jeunes n'étaient pas ou peu sensibilisés via en tout cas l'éducation nationale, qu'est née l'association Discutons justement ?
Alors c'est plus né d'une volonté, je dirais, des bénévoles et des créateuristes de l'association. Pas uniquement lié à ce constat, parce que c'est vrai que dans la loi, il faudrait vraiment que les séances d'éducation sexuelle soient mises en place, ce qui n'est pas encore fait, même si la loi le dit. Je pense que c'est surtout parti d'une volonté, en fait, Enfin, j'ai pas créé l'asso, donc je parle un petit peu en leur nom, mais une volonté, en fait, de diffuser surtout du bon contenu, entre guillemets, des bonnes informations, parce qu'avec ce qu'on trouve sur Internet, le peu en fait, de séances qui ont lieu dans les écoles, c'est vraiment insuffisant, voire des fois incorrect. J'ai l'impression qu'on a à peu près toutes une anecdote d'une séance d'éducation sexuelle au collège, où vraiment on a pu entendre des énormités ou des trucs super problématiques, et pas du tout rassurant en fait, pour pouvoir commencer ou continuer sa sexualité d'une manière sereine.
Ou des choses archaïques un peu.
Oui, c'est clair.
En tout cas, pour voir des jeunes au quotidien, il y en a pas mal qui donnent ça comme retour, des choses un peu dépassées, quoi. Je parlais du planning familial. Je me demandais justement dans quelle mesure vous travaillez peut-être en complémentarité avec certaines assos. J'ai vu que vous relayez pas mal des infos de l'association Nozig aussi. Qu'est-ce que vous venez apporter de différent, ou peut-être juste à quel point vous travaillez ensemble?
Alors nous, ce qu'on fait, on a plusieurs pôles dans l'association qui s'organisent autour de différentes actions, entre guillemets. Donc nous, on parle d'éducation affective et sexuelle. Donc à partir de là, on parle de plein de sujets de notre côté. Après, si on sent qu'il y a une demande de la part d'une personne pendant une intervention ou de, je sais pas, des personnes qui font appel à nous à travers le site, notre site internet, mais on peut les renvoyer. Si nous, on ne peut pas leur donner de réponse ou si on ne peut pas leur apporter une aide suffisante, on peut les renvoyer vers Nozig ou vers le planning familial ou leur conseiller une autre association, un numéro vert ou ce genre de choses pour accompagner aussi les personnes s'il y a une demande, en fait. Parce que c'est vrai que nous, on parle d'éducation, mais ça a ses limites dans certains domaines. Si, par exemple, on parle de VSS, donc de violences sexistes et sexuelles, en fait, nous, on n'est pas formés pour accompagner des gens à porter plainte ou ce genre de choses, mais on peut quand même les accompagner, leur dire bah, c'est ça tes droits, tu peux aller voir cette association là, enfin voilà, ce genre de choses.
Oui, parce que justement, alors je voyais sur votre site un visuel qui rappelle que l'âge moyen du premier visionnage de porno, c'est de 14 ans, et qui enchaîne en disant que 2 à 3 enfants par classe ont déjà été agressés sexuellement avant cet âge là donc pour vous, enfin pour votre asso, l'éducation à la sexualité, ça passe aussi par l'apprentissage de justement de ce que sont les violences sexuelles, en fait.
Ouais, c'est clair, complètement. Parce qu'en fait, s'il y a autant de violences, c'est parce que en général, on les nomme pas, ou pas comme ça, ou pas aussitôt, ou enfin, il y a toujours quelque chose de différent. Puis on se rend compte plus tard qu'en fait, oui, ça c'était bien une violence, et que en effet, ça pose bien problème. Et en fait, on a un peu la volonté de se dire, bah si on peut éduquer, donc vraiment, c'est pas une question. Quand on parle d'éducation, on ne parle pas d'enfants de 5 à 20 ans, on parle vraiment de 0 à 99 ans, voire plus. Et c'est vraiment donner des outils à tout le monde pour savoir c'est quoi ses limites, et savoir ce que c'est une agression, et savoir comment éviter soi-même d'être agresseur ou agressé. Enfin, on ne peut pas éviter d'être agressé, mais bref. Enfin voilà, je pense qu'on essaye au mieux, en fait, d'accompagner les gens pour comprendre, en fait, l'existence et le fonctionnement du consentement et de tout ce qui a trait à l'éducation sexuelle, quoi.
Alors, sachant qu'à l'heure actuelle, bah, les jeunes sont sensibilisés quand même à des niveaux assez différents à la sexualité en fonction de ce qu'ils ont vécu ou de leur éducation ou de ce à quoi ils s'exposent ou ils sont exposés, est-ce qu'il y a des sortes de référence, ou enfin, je sais pas, des textes qui font foi pour dire bah, à tel âge on va parler de ça, ou alors pour établir, enfin pour avoir des repères, pour établir des ateliers en fonction des âges autour de l'éducation sexuelle, ou est-ce que c'est vraiment en fonction des demandes que vous avez que vous vous adaptez, ou les deux?
Alors, il y a un peu des deux. Quand on a des demandes précises, en général c'est par niveau, donc on fait un atelier en fonction du niveau.
Du niveau d'âge, du coup.
Ouais, du niveau d'âge, ouais. Exactement. Après, c'est aussi. Pardon, j'ai perdu mes mots. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a sur notre site internet une énorme. Enfin, une énorme. On essaie de la faire la plus grande possible, une banque de ressources, en fait, qui permet de. Pour tous les âges, pour tous les niveaux et pour tous les. Enfin, on essaye de faire en sorte que ce soit vraiment le plus large possible pour tous les sujets, de trouver des ressources. Documentaires, livres, BD. Podcast, et j'en passe. Vraiment, c'est quelque chose vers laquelle on essaie de rediriger aussi, parce que bah, ça permet à tout le monde de pouvoir s'éduquer de la manière dont on veut. Et il y a aussi, on a mis en place un système de notation, en fait, pour savoir si la source est fiable, ou si on peut la critiquer d'une certaine manière, ou voilà, on essaye aussi d'être un peu critique parfois, parce que par exemple Sex Education, la série, c'est bien, mais peut-être qu'il y a 2-3 choses à redire ou à préciser, ou des sujets à approfondir, enfin voilà.
Ok, donc il y a les ressources qui sont notées en fonction de leur fiabilité ou de...
Exactement, ouais.
Ok, mais bon, j'imagine que vous mettez pas non plus des ressources que vous jugez complètement à côté de la plaque.
Oui, non, bah des fois on en met pour bien dire aussi que...
Ah oui, ça c'est pas bon, quoi.
Ouais, voilà.
Ok. Oui, parce que justement, je naviguais un peu dans cet onglet ressources et la première tranche d'âge, c'est 0-3 ans. Donc effectivement, ça prouve bien qu'il n'y a pas d'âge pour commencer l'éducation à la sexualité ou à la vie affective. Justement, le côté, le fait de répertorier toutes ces ressources-là, c'est un travail qui n'avait pas encore été fait, ce que je me suis demandé. Enfin, vous êtes aperçu que ça manquait. C'est quand même un gros travail.
Oui, c'est clair.
J'imagine que vous avez vérifié que ce n'était pas déjà fait quelque part.
Oui. Alors déjà, il faut savoir que moi, dans l'association, j'ai très peu participé à cette partie ressources. Mais merci à tous les autres bénévoles de Discutons d'y participer activement. En tout cas, à ma connaissance, c'est clair qu'il n'y a pas en fait, de banque de ressources claire où on peut retrouver autant de ressources que ça, en fait. Et d'en avoir un avis un petit peu, entre guillemets, objectif pour savoir, ok, donc ça, c'est bien, comment je peux en parler à mon enfant, est-ce que je peux le donner à mon enfant. Ça permet aussi de par exemple, donner à des parents ou à des enfants des outils pour donner à leurs parents ou aux parents à donner à leurs enfants, savoir ce qui est bon ou pas sur certains sujets. Et ouais, ça, je pense que c'est, à mon avis, c'est un peu une des plus grosses bases, j'espère. Après, j'ai peut-être trop le nez dans l'association, mais je pense que c'est une bonne base qui répertorie pas mal de ressources. Et ouais, je pense qu'elle est un peu unique, j'espère. De toute façon, c'est Discutons, donc c'est unique.
C'est ça. Et peut-être dernière question avant la pause musicale. Vous avez eu déjà des demandes pour des tout-petits d'ateliers ou c'est pas encore trop dans la pratique pour le moment?
Alors, à ma connaissance, non. Parce que c'est compliqué à mettre en place, en fait. Mais c'est quelque chose vers lequel on aimerait tendre de plus en plus. Mais voilà, vu que c'est compliqué à mettre en place, on n'y est pas encore. Mais on a quelques pistes déjà. Et ouais, ça devrait se faire tantôt, on espère.
Merci à vous pour cette première partie d'interview. Nous y reviendrons tout à l'heure pour la seconde partie. Je vous laisse en attendant avec le morceau Memory Lives d'Anomaly et Masego.
But I gotta go, sad I know. Go and pack your clothes. When the phone rings, I leave. Can't leave you alone. These fall autumn, it reminds me. Pick up games on the concrete, kids outside. You will find me late night jams. We were zombies, nowadays airplane is my playground. Saturdays we play in a new town. My friends, musicians and creatives, hit one day then go to new places.
I know you wanna be here, but I gotta go. Sad I know, go and pack your clothes. Cause when the phone rings, I
I've been on the road for weeks, please. I just wanna go to sleep, dream. Think about a load of things, breathe. See it for a whole new way, preach. Pardon, but this God and my new focus. Hey, ask me what the new things I'm growing. Ask me about my team and who was poking. Ask me for who made the beat and who wrote it. I care for the lesser man, the one with the social presence, man. With that woman trying to get head without giving head to the producer, man. Yeah, I heard the story, it's true for man. Like, if you make beats, you should fly free. If you play instrument, you king. If you rap sync, you can do me. If you pass me with thump, that's green.
I know you wanna be here, but I gotta go. Sad I know, go and pack your clothes. Cause when the phone rings, I leave. Can't leave you alone, memories. I know you wanna be here, but I gotta go. Sad I know, go and pack your clothes. When the phone rings, I leave. Can't leave you alone, memories.
Be
C'était votre pause musicale, retour dans la seconde partie de l'interview avec toujours Constance et Noé qui nous parlent d'éducation sexuelle et affective auprès des jeunes.
Curiosité. Pensez le futur.
Et oui, donc à nouveau avec Noé de l'association Nantaise Discutons. Vous serez ce week-end à l'Agronaute pour le festival Ramdam organisé pour les 20 ans de l'atelier des initiatives. Alors vous, votre proposition plus spécifiquement, c'est un podcast en live sur l'éducation sexuelle. Ça se passe samedi à 16h30. Donc nous, forcément, le côté podcast en live, ça a attiré notre curiosité. Concrètement, déjà, ça veut dire quoi un podcast en live et qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, faut venir à l'Agronaute pour le savoir.
Suspense encore.
Exactement, mais pour teaser un petit peu. En fait, demain, donc, ça va être un podcast en live autour du rapport au corps. Donc on a vraiment pris un sujet très large pour commencer. On s'est dit aussi que ça pouvait parler à... Enfin, en évoquant un sujet aussi large, on pouvait parler à beaucoup de monde. Donc il va y avoir 3 intervenants, intervenantes et 2 personnes qui vont animer. Enfin, animer, co-animer, intervenir aussi, en fait. Donc, ce sera donc moi et une autre personne de l'association qui s'appelle François, de Discutons. Et donc, 3 intervenants, intervenantes, avec qui on va parler, en fait, assez tranquillement, avec des questions, basiquement, c'est quoi ton rapport au corps ? Enfin, on va partir sur des questions un peu plus précises par rapport à la liberté, la puberté, ou je ne sais pas, le rapport à la nudité, ce genre de choses. Et on va aussi avoir un petit échange normalement avec le public sous forme d'un question-réponse. En fait, ce sera assez libre, assez tranquille, vraiment une espèce de discussion en fait, autour de la sexualité et de son corps en fait, de manière générale.
Donc les intervenants qui discutent, enfin les intervenants de Discutons ?
Alors non, ce sera des personnes extérieures, en fait des volontaires qui viennent parler leur rapport au corps.
Okay.
C'est vraiment des personnes qui ont envie d'en parler et qui ont envie d'être là et non, qui sont pas du tout bénévoles.
Ok, mais qui vous, ont vous êtes envie de animateur, animatrice de l'émission.
Ouais, exactement.
Ok, et alors c'est écrit à partir de 11 ans, pour info. Je sais pas si c'est lié à la thématique ou juste l'intérêt que ça peut susciter.
Écoutez...
Pas d'avis.
Non, exactement, pas d'avis. Je pense que c'est lié en fait à... Tout ce qui va être, tout ce qui va avoir lieu demain à l'Agronaute, c'est quand même des activités associatives. Et c'est vrai que c'est en général moins adressé aux très jeunes. Mais pourquoi 11 ans, je ne pourrais pas vous dire.
Donc plus généralement, vous avez aussi un projet de podcast qui est annoncé sur votre site, qui est encore en cours, puisque pour le moment les podcasts ne sont pas disponibles. C'est quoi le but à travers ça ? Est-ce que c'est d'offrir un nouveau médium justement pour parler d'éducation sexuelle ? Est-ce que là aussi on peut avoir un petit teasing ?
Alors, je vais bien teaser parce que pour l'instant rien n'est sorti et tout est en cours, tout est en construction. Donc en fait on a une partie de podcast où je peux plus en parler parce que je suis beaucoup plus impliquée là-dedans. En fait on appelle ça le podcast, il s'appelle Ce que l'on sème. Et en fait c'est un podcast, il va avoir lieu demain, comme on a déjà pu faire des enregistrements avec des intervenants, intervenantes qui ont envie juste de parler de certains sujets. Donc on peut aborder des sujets comme les insultes, le rapport au corps, je l'ai déjà dit, c'est vraiment plein de choses où en fait on parle de nos expériences, on pose des questions, on évoque certains chiffres parfois. Mais là c'est vraiment entre guillemets se raconter. Et on a une autre série de podcasts, une autre chaîne de podcasts entre guillemets, qui est plus... La première série dont je parlais, Ce que l'on sème, ce sera des podcasts assez courts de 15, 20, voire 30 minutes maximum. Et l'autre série de podcasts, ça va être une série avec en fait, des professionnels, j'allais dire des professionnels de la santé, mais ça peut être des professionnels pas de la santé, mais en tout cas qui sont experts dans un sujet, plus ou moins experts dans un sujet, et qui viennent du coup nous parler de ce sujet-là. Et on a des questions à leur poser. Là, ce sera des podcasts un peu plus longs, en général peut-être une heure. Ça dépendra de l'enregistrement, mais voilà.
Et donc, ce sera disponible, on ne sait pas encore.
Ce sera disponible avant la fin de l'année 2023,
okay.
Pour viser large. Et ce sera disponible sur toutes les plateformes, donc Deezer, Spotify, enfin toutes les plateformes de podcast. Après, si vous voulez rester au courant, vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur notre site internet, vous pourrez aller voir aussi.
Ça marche. Alors, vous intervenez auprès de publics très différents. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps vous étiez à Polytech Nantes. Enfin, ce que je me demandais, c'est quels étaient les retours que vous pouviez avoir suite à vos ateliers. Alors, je ne sais pas si toi, tu en animes, enfin, vous en animez personnellement. Est-ce qu'il y a des choses qui étonnent, qui marquent ou qui interrogent en particulier les différents publics? En tout cas, quel est pour l'instant les retours que vous avez retour d'expérience un peu.
Bah, ça fonctionne plutôt bien. De toute façon, toutes les expériences sont bonnes, entre guillemets, vu que parler d'un sujet, même si ça en perturbe certains, certaines, ou même si c'est compliqué, parfois, c'est bien d'en parler, parce qu'on essaie aussi d'amener bien les choses. On a des bons retours, parce que c'est aussi que, je pense, on comble un manque mais justement d'éducation sexuelle, comme on en parlait tout à l'heure. Et vu qu'on intervient aussi auprès de beaucoup de, enfin, un public large, ça peut être des collégiens ou des adultes, des fois on intervient dans des bars aussi, on essaye vraiment d'avoir cette notion de culture populaire, comme l'association L'Atelier des Initiatives, pour laquelle on fête demain, dans le cadre du festival Ramdam, les 20 ans. On a vraiment, je pense, nos deux associations, une idée d'éducation populaire, quoi.
Mmh. Et justement, dans quelle mesure vous êtes liés, vous, à l'Atelier des Initiatives? C'est quoi vos liens?
Alors, en fait, l'Atelier des Initiatives, donc, c'est une association, pour en parler un petit peu, donc, c'est une association d'éducation populaire qui permet d'accompagner les jeunes à l'accès à la culture. Enfin, les jeunes et les moins jeunes, il me semble que c'est 16-32 ans, la tranche d'âge, pour être très précis. Donc, elle accompagne les jeunes vers la culture, surtout des personnes qui n'ont pas forcément accès. Et c'est aussi une association qui accompagne la création de projets et qui accompagne donc à la création d'autres associations. Donc, entre guillemets, elle parraine et elle accompagne la création, par exemple, elle a accompagné la création Discutons et de plein d'autres associations. Donc, c'est pour ça que le festival aussi sera assez fourni. Il y aura pas mal de propositions, du théâtre, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. La sérigraphie, tout ça. Donc, voilà, nous, c'est un peu le lien qu'on a avec l'Atelier des Initiatives.
Alors, notre émission du vendredi, elle s'appelle Penser le futur. C'est une question un peu vaste, mais du coup très ouverte. À votre avis, c'est quoi j'allais dire l'éducation sexuelle du futur, c'est pas très bien dit, mais est-ce que peut-être une éducation sexuelle qui aurait l'ampleur et la place qu'elle mérite? Enfin, voilà, comment vous imaginez ça pour plus tard?
Alors, nous, on essaye vraiment de faire en sorte que le monde soit un monde meilleur, mais pas avec des questions qu'on poserait sur Internet et tout ça. En fait, on aimerait vraiment juste ouvrir la discussion, ouvrir des nouvelles portes pour juste parler de certains sujets dont on n'a pas forcément l'habitude. Enfin, avec sa famille, ça peut être compliqué, avec ses amis, ça peut être compliqué aussi. On essaye de créer des espaces, en fait, et c'est ce qu'on aimerait à l'avenir, que la planète entière soit un espace... sain et tranquille, où on peut parler de ce qu'on vit, de comment on sent, et voilà, en fait, vraiment ce truc d'éducation populaire avec l'Atelier des Initiatives, d'aller vers quelque chose, juste un espace de discussion pour tous et toutes, et un espace aussi d'une meilleure connaissance de soi et de l'autre, je pense.
Et alors, est-ce qu'on peut vous rejoindre en tant que bénévole? Et si oui, pour faire quoi? Parce que j'imagine qu'animer des ateliers, il faut quand même être un minimum formé pour ça.
Alors, nous, au sein de l'association, on accueille les bénévoles et on peut les former, entre guillemets. Enfin, on n'a pas de session de formation stricte, mais voilà, ça passe par des discussions, par exemple, quand on accueille les bénévoles. Pour retrouver toutes les infos et pour nous contacter, de toute façon, ce sera sur notre site internet. Ou sur Instagram éventuellement. Et là, on pourra répondre à vos questions, même si vous avez des questions sur la sexualité, c'est aussi possible de nous les adresser comme ça. Et voilà, pour être bénévole, bah, potentiellement, vous pourrez nous rejoindre complètement avec le site internet. On a plusieurs pôles, donc on peut faire des interventions. Il y a les pôles des podcasts, donc il y a le podcast Ce que l'on s'aime, qui est plus fait avec des jeunes, et il y a le podcast donc fait avec des professionnels. Il y a toute la partie ressources aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui est constamment, en permanence nourrie. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites au sein de l'association, en fonction de comment on sent. Après, on n'est jamais tout seul. Et en même temps, personne ne va te donner la légitimité de dire bah, « maintenant, tu es formé pour faire un atelier ». Donc, on essaye d'être là, on essaye d'accompagner au mieux. Et voilà, de toute façon, un atelier, ça se fait rarement seul. Et on co-construit en général, soit ensemble, soit même avec les élèves. Donc ouais, c'est assez accessible. Et puis, de toute façon, on en parle, quoi. On peut toujours faire des choses avec tout le monde.
Eh ben, merci beaucoup Noé d'être venu nous parler donc, de cette association Discutons, association qui promeut l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle auprès des jeunes. Je rappelle que vous serez donc demain à l'Agronaute à 16h30 pour le festival Ramdam de l'atelier des initiatives. Et il y a d'autres ateliers, animations, DJ set, etc. Ce sera donc de 15h à minuit à l'Agronaute. Évidemment, on vous encourage à y aller, c'est demain. Merci.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Un grand merci à Constance et à son invité Noé de l'association Discutons. Dans quelques instants, la chronique spéciale de Jérémy, mais avant cela, le morceau Tapis volant de Yalamiku. place à la chronique sportive de Jérémy à présent.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Vous connaissez sûrement le hockey sur glace et probablement aussi le hockey sur gazon, mais connaissez-vous le hockey subaquatique ? C'était déjà assez dur comme ça d'essayer de marquer des buts. En donnant des coups de crosse à un palais, il a fallu que quelqu'un empêche les joueurs de respirer en les obligeant à aller sous l'eau. Ce sport se pratique en effet entièrement en apnée et dans une piscine. Chaque joueur doit avoir son équipement, un masque, un tuba et des palmes. Le tuba ne sert aux joueurs que lorsqu'ils remontent à la surface pour prendre de l'air, et tout en faisant une pause, sinon tout se passe au fond de la piscine. La seule personne qui a le droit à une bouteille d'oxygène, c'est l'arbitre, puisqu'il doit être en permanence sous l'eau pour voir ce qui se passe. Un match de hockey subaquatique oppose deux équipes de 6 joueurs pendant 2 périodes de 15 minutes. Comme dans toute partie de hockey, le but est de pousser le palais à l'aide d'une crosse et de le faire entrer dans le but adverse. Mais contrairement aux autres variantes de ce sport, il n'y a pas de gardien, parce que le gars ne pourrait pas rester sous l'eau comme ça. C'est pas pour autant plus facile, parce qu'il faut pouvoir pousser un palais qui pèse 1,5 kg environ. Donc c'est assez, ça peut être assez compliqué. Le palais, comme le but, reste au fond de la piscine, ce qui oblige les joueurs à évoluer sans respirer, comme je l'ai dit plus haut. Malgré ces contraintes, comme ses cousins sur glace et sur gazon, le hockey subaquatique reste un sport de contact où il faut savoir jouer physique pour s'imposer. La plupart des règles sont communes entre ces pratiques. Dans l'eau, aussi, il est possible de se retrouver en prison quelques minutes après avoir commis une faute. Cela fait tellement partie du jeu qu'à la création du championnat de France, un trophée en forme de chaise était remis à l'équipe qui avait eu le plus de joueurs en prison au cours de la saison. Ce trophée existe toujours, mais aujourd'hui, il récompense l'équipe qui a le plus progressé au cours de l'année. Il faut avoir les yeux partout au cours d'un match de hockey subaquatique, puisque les adversaires peuvent arriver de gauche, à droite ou au-dessus. Ce qui exige une concentration assez énorme. Un joueur doit pouvoir gérer le palais et les défenseurs tout en nageant en apnée. Heureusement, ce qui facilite la tâche, c'est d'avoir les palmes, justement, ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, il y a certaines équipes qui n'en ont pas, ça dépend des moyens de l'équipe. Même si ce sport n'est pas encore très connu du grand public, il existe depuis un certain temps, puisque cette discipline a été créée en 1954 en Angleterre, avant d'arriver en France en 1968. Depuis, le hockey subaquatique est présent dans tous les pays. La France fait partie d'ailleurs des nations phares de ce sport, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Et ici à Nantes, il existe aussi un club, donc si vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez. C'est un sport exigeant et très difficile à regarder. Le hockey subaquatique est probablement un des seuls sports où le spectateur se trouve lui aussi dans l'air de jeu. Parce que comme toutes les actions se passent sous l'eau, si on veut venir assister à une rencontre, il faut aussi être équipé d'un masque et d'un tuba. Si on veut rester au sec, il est parfois possible de voir le match sur une télé. Mais dans les deux cas, il est très difficile de venir encourager son équipe favorite, puisque globalement, sous l'eau, on n'entend pas grand-chose. Donc, ça laisse pas plus d'avantages à l'équipe qui reçoit qu'à ses supporters. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que ce sport reste peu connu du grand public, car même les spectateurs doivent se mettre en condition pour regarder un match. N'essayez pas non plus d'adapter ce sport dans la mer cet été. Quelqu'un a déjà essayé, mais ça a été un échec total.
Merci à toi Jérémy, c'est un sport pour le moins rafraîchissant mais très exigeant. Auditrice, auditeur, ne quittez pas, Lola revient dans un instant pour votre pause cadeau de la semaine.
Ouais.
La pause cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des vinyles pour l'EP Loin de Esther, rappeuse bordelaise qui était venue à Prune pour un live du jeudi. Alors tente de gagner l'un d'entre eux en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et on retourne doucement avec la suite de l'émission et le morceau Manège d'Esther, c'est tout de suite sur Prune.
Il y a déjà le Covid que je dois gérer, le fait que je sois fauché, que je dois gérer, on dégage. Je reviendrai plus tard, peut-être jamais parce que je suis une lazy personne avec une bête de chanson. Mais c'est pas grave, on assume, on reste debout.
Au départ j'ai anticipé, mais quand t'as pris le large, je t'ai regardé partir. J'étais archi naïf, mais comme je prends de l'âge, j'apprends aussi. Réveillé par le destin si tôt, rien que c'est la faucheuse. Alors tous les soirs, même matin, même absent sur la liste, je suis toujours sur mes gardes, j'ai jamais rien d'acquis.
Vraie vie, vraie mort, vraie larme.
Je suis bénie, j'oublie d'être reconnaissante. Quand je pleure trop, ça me fait vomir. Je perds la boussole, je tors, ça me console.
Vrai fils, vrai corps, vrai drame.
J'avance vers le phare, mais je vois plus la lumière. Aveuglé par des flashs, je crois que je suis cerné. Sans toi, c'est rincé. Tu me rassures jamais assez. Toutes les portes c'est défuntes. Dis-moi, je sais pas où aller. Je sais pas où aller. C'est pas parce que j'en parle pas que je suis pas touchée.
Ouais, c'est vrai, c'est compliqué.
Le temps passe lentement, j'attends qu'il me réporte. Je regarde passer les secondes, il est toujours super tard.
C'est supportable.
Je sais qu'il suffit d'avancer, mais faut pas faire couler la porte, non. Je vais lâcher les rames, je m'égare, je maigris, un peu aigri. Je fais pas de régime, mais y'en a toujours pour dire. Montre-nous ce que t'as dans le bide.
Vraie vie, vraie mort, vraie larme.
Je suis bénie, j'oublie d'être reconnaissante. Quand je pleure trop, ça me fait vomir. Je perds la boussole, je tors, ça me console.
Vrai fils, vrai corps, vrai drame.
J'avance vers le phare, mais je vois plus la lumière. Aveuglé par des flashs, je crois que je suis cerné. Sans toi, c'est rincé. Tu me rassures jamais assez. Toutes les portes c'est défuntes. Dis-moi, je sais pas où aller. Je sais pas où aller. J'avance vers le phare, mais je vois plus la lumière. Aveuglé par des flashs, je crois que je suis cerné. Sans toi, c'est rincé, tu me rassures jamais assez. Toutes les portes c'est défuntes. Dis-moi, je sais pas où aller. J'avance vers le phare, mais je vois plus la lumière.
Je sais pas où aller.
Aveuglé par des flashs, je crois que je suis cerné. Sans toi, c'est rincé. Tu me rassures jamais assez. Toutes les portes se défendent. Dis-moi, je sais pas où aller. Je sais pas où aller.
Auditeurs, auditrices, à présent, place à votre reportage de la soirée. Un reportage sur l'inquiétante montée des eaux sur l'Île-Dieu. Aujourd'hui, les habitants de l'île se saisissent de cette question aux côtés d'experts. On vous explique tout cela dans le reportage Pensée locale, en partenariat avec la Frappe.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Le projet Odysseïl fait suite au programme Odysseieux qui se consacrait à l'observation collaborative et à la compréhension des phénomènes à l'origine de l'érosion côtière sur l'île Dieu Elsa Cariou, docteur en géologie sédimentaire, ingénieure de recherche à l'Université de Nantes et coordinatrice des programmes.
Au sein de ce programme Odysseyeux, on a acquis un certain nombre de données sur l'évolution du niveau de la mer autour de l'île-Dieu et la réponse que va avoir l'île vis-à-vis de ce niveau de la mer qui monte. Maintenant, il s'agit de faire un nouveau projet de recherche plus prospectif où on invite les gens à réfléchir à comment est-ce qu'on va gérer ce niveau de la mer qui monte sur l'île à plus ou moins long terme. Et justement, c'est tout l'intérêt de l'exercice, c'est-à-dire d'y réfléchir à la fois à une échéance de 5 ans, de 10 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans. C'est pas un projet qui va se dérouler que sur l'île-Dieu. En réalité, c'est un projet qui se déroule à la fois sur l'île-Dieu, sur Noirmoutier, sur Ouvéa et sur Mayotte. En fait, ce sont 4 îles sur lesquelles on a déjà mis en place, alors pas notre équipe spécifiquement, mais d'autres équipes de recherche ont déjà mis en place des recherches collaboratives. Et donc justement, ce sont 4 îles où la population est déjà investie d'une certaine façon dans la gestion côtière et la gestion du changement climatique. On travaille avec des méthodes collaboratives. Il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà mises en place au sein d'Odysseyeux, notamment les réunions publiques, les ateliers art sciences, on a commencé à se roder, on va dire. Maintenant, on échange avec les autres îles, justement pour pouvoir mettre en place des choses un petit peu similaires, mais qui soient vraiment adaptées à chacun des territoires. Il ne s'agit pas de faire des copier-coller partout. Et puis, avec quels outils? Là aussi, au sein d'Odysseyeux, on avait mis un certain nombre d'outils en place, notamment la maquette en 3 dimensions de l'île, donc sur laquelle on pouvait projeter tout un tas de cartes, les sentinelles de la côte. C'est un outil qui nous permet de prendre des photos de certains endroits de la côte et de surveiller en 3 dimensions l'évolution de ces endroits vis-à-vis de l'érosion côtière. Et donc c'est un outil qui est collaboratif là aussi, donc c'est un outil qu'on met à disposition des personnes qui souhaitent nous aider à faire ce suivi, qui peuvent télécharger une application, la mettre sur leur téléphone portable et réaliser au fil du temps, tous les mois, les acquisitions qui nous sont envoyées, puis nous on les traite. C'est important aussi pour nous vraiment d'impliquer le public plus jeune et notamment les collégiens, les lycéens, parce que finalement, c'est eux aussi les adultes de demain, donc ils doivent faire partie du bateau.
Pensée locale, un enjeu de société.
L'érosion côtière, elle a pas spécialement augmenté depuis le début des programmes Odysseyeux et Odysseyilles. Dans la mesure où il n'y a pas eu de tempête majeure, il n'y a pas eu plus d'érosion qu'avant. Par contre, il y a des endroits où, malgré ça, on a quand même perdu plus de 2 mètres. Hein, donc, c'est pas négligeable quand même. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, ces dernières années, on a plutôt eu de la chance. Que ce sera peut-être pas toujours le cas, et que en plus de ça, donc on va vers des coefficients de marée qui vont être de plus en plus importants, et il va y avoir des moments dans les années qui viennent où les coefficients vont être beaucoup plus forts. Donc ça aura forcément un impact aussi, en plus des tempêtes. L'objectif final, c'est d'amener un maximum de gens à réfléchir et à se projeter dans le futur sur qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce qu'on va réagir, nous, en tant qu'humains, vis-à-vis de ce changement climatique. Pour l'instant, le programme Odysseyilles, il est financé par la Fondation de France, par la Fondation Nantes Université et d'une manière plus générale par l'Université de Nantes qui porte le projet à travers l'OSUNA, l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.
Les strates et les résultats des différentes recherches du programme Odysseyeux entre 2018 et 2022 sont consultables sur odysseyeux.org. Pour le programme Odysseyilles, rendez-vous sur osuna.univ-nantes.fr. Laurent, Radio Neptune FM, sur l'île-Dieu.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
C'était votre reportage du vendredi soir. Avant de laisser la place à Alexis pour la dernière chronique de notre émission, je vous laisse avec le morceau Busking Park de Ferry.
Thank you.
passe à présent à la dernière chronique de notre émission avec Alexis, qui nous parle d'un roman qui l'a particulièrement marqué.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Oui, de retour dans cette chronique littéraire hebdomadaire autour donc de la littérature, comme vous vous en doutez, et je vais vous parler d'un autre livre de science-fiction, cette fois-ci, hein, vous l'aurez peut-être compris si vous écoutez de temps en temps cette émission, ça m'intéresse bien, la science-fiction, j'aime bien ça. Et notamment les livres qui sortent chez La Talente, parce qu'ils font du super boulot et on les salue, on les remercie. La Talente, qui est donc une maison d'édition nantaise historique, hein, qui a édité donc, notamment les premiers livres de Pierre Bordage, mais aussi qui ont été les premiers à éditer en français les livres de Terry Pratchett. Donc ils ont quand même un sacré pédigré. Et donc ils continuent comme ça à sortir des livres de nouveaux auteurs ou autrices qu'il faut suivre, et c'est notamment le cas de Becky Chambers. Alors Becky Chambers, elle a un an de moins que moi, voilà, et elle a déjà remporté beaucoup de prix internationaux avec sa littérature, et bravo pour elle, et elle a beaucoup de talent. Donc elle a écrit notamment une série qui s'appelle L'espace, enfin un premier livre qui s'appelle L'espace d'un an, qui fait partie de la série voilà, les Voyageurs, et elle a reçu le prix Hugo pour la meilleure série littéraire pour cette série en 2019. Le prix Hugo étant le prix littéraire science-fiction le plus reconnu dans le monde, un prix bien entendu américain. Et puis, L'espace d'un an, donc, c'est un livre qui a également été édité en France par La Talente et qui se propose de présenter un futur, alors pas complètement utopique, mais en tout cas pas mal positif. On parle souvent de dystopie, de futur crépusculaire, sombre, voire de post-apocalyptique. Et là, justement, l'idée de ce type de science-fiction, et c'est relativement récent, enfin, ça revient, c'est justement de proposer un futur en fait, assez positif et de plutôt dire on va peut-être réussir à se sortir les mains de la... merde, et on va y arriver à faire ce... Enfin, pourquoi pas. Et voilà, c'est très chouette. Et donc, elle a lancé une nouvelle série sous forme de nouvelles. Hein. Alors, des courts romans, on va dire, puisque ce roman dont je vous parle, Un psaume pour les recyclés sauvages, fait partie de la série Histoire de moines et de robots, et se passe également dans un futur utopique qui a l'air très sympathique, qui donne très envie. Et donc, pour vous camper un peu l'histoire, on est dans le futur. Il y a eu... l'humanité est passée au bord d'un cataclysme monumental, mais finalement, il n'a pas eu lieu. Et tout le monde a décidé de changer sa manière de vivre et d'être plus en harmonie avec la nature, et etc. Avant le faux cataclysme, enfin le cataclysme qui n'a pas eu lieu, les humains avaient quand même inventé les robots, puisqu'on est dans le futur. Finalement, les robots ont fini par prendre conscience d'eux-mêmes, comme ça arrive très souvent dans la science-fiction. Et plutôt que de se rebeller et tuer tous les humains, comme ce qui arrive le plus souvent dans la science-fiction, eh bien, ils ont juste décidé de partir. En fait, les humains leur ont proposé soit de s'intégrer à la société en tant qu'être vivant à part entière, soit justement de faire ce qu'ils veulent. Et donc, les robots ont décidé, non, on va partir dans la nature, vivre notre vie. Et donc, pendant plusieurs siècles, aucune nouvelle. Et là, on suit l'histoire d'un ou d'une jeune moine qui est un moine du thé et qui se balade avec sa roulotte tractée par son vélo électrique. Donc là aussi, c'est assez utopique, hein, dans un décor naturel, très chouette, très en harmonie avec la nature, et qui va tomber donc sur le premier robot vu par un humain depuis extrêmement longtemps. Et va s'enchaîner donc cette discussion entre les deux, donc d'où le titre, hein, Histoire de moine et de robot, le titre de la série. Une discussion qui est en fait assez philosophique et qui peut rappeler, en tout cas à mon avis, ça fait partie des références, les discours socratiques par exemple, les dialogues socratiques, mais aussi des choses comme Jacques le Fataliste de Diderot, c'est-à-dire vraiment... une discussion qui permet la maïotique, c'est-à-dire de faire accoucher les esprits, et notamment donc celui du personnage principal qui s'appelle Dex, donc ce jeune moine qui semble être un peu gâté, à tout ce qu'il lui faut, et pourtant a l'impression d'être un peu malheureux ou malheureuse, et décide comme ça de partir dans une espèce de recherche d'elle-même ou de lui-même, et qui, parce que enfin, excusez-moi, je dis ça, j'arrête pas de dire il ou elle, parce qu'en fait, elle est, cette personne n'est pas genrée dans le roman, et c'est tout à fait intéressant aussi, dans le principe comme ça de cette utopie future. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage principal, donc, fait un peu enfant gâté, par contre, et dans ce monde assez idéal ou idéalisé, en tout cas, on a un peu envie de dire, bon, bah, maintenant, arrête de te plaindre, tu as l'air très bien, et... cette rencontre avec le robot va justement un peu remettre les pendules à l'heure et c'est aussi assez agréable. Et puis, bah, peut-être que aussi dans cet enfant gâté, on peut assez facilement se retrouver parfois, nous venant de pays privilégiés. C'est un livre vraiment très chouette qui est en plus... très rapide à lire, hein. Franchement, ça fait une centaine de pages, 120 pages, et très agréable, très assez solaire comme ça, et qui a fait déjà donc pour cette rentrée littéraire un certain succès. On en a parlé un peu partout dans les radios nationales de qualité, comme à l'image de Prune, bien entendu. Et je vous le conseille. Donc, ce psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers est déjà disponible depuis septembre dernier aux éditions La Talente, et c'est très chouette.
Merci à toi Alexis. Ainsi se termine notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi et vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions en replay sur le site internet de Prune. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et surtout de belles vacances si vous avez la chance d'en profiter un peu. À très vite sur Prune.
Curiosité, du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.